Vous écoutez, on lit pour vous.
Le monde est trop gros, le Canada aussi. Un texte de Sylvain Charlebois paru le 11 avril 2024 dans la presse. Une affirmation étonnante de la revue The Lancet a souligné, il y a quelques semaines, que l'obésité a surpassé la faim en tant que risque pour la santé mondiale. Au Canada, notre taux d'obésité continue d'augmenter, même 5 ans après le lancement d'un nouveau guide alimentaire amélioré. Malgré de nombreux efforts ces dernières années, cette tendance pourrait inciter les gouvernements à prendre en compte d'autres solutions potentielles. L'épidémie mondiale d'obésité s'aggrave à un rythme alarmant. Une étude récente publiée dans The Lancet révèle que plus d'un milliard de personnes dans le monde vivaient avec l'obésité en 2022. La prévalence de l'obésité a plus que doublé chez les adultes et quadruplé chez les enfants et les adolescents depuis 1990. De plus, les données indiquent que 43% des adultes vivaient en surpoids en 2022. Ce rapport suggère que l'obésité représente désormais un risque pour la santé mondiale plus important que la faim. De plus, la situation devrait s'aggraver. Selon l'Atlas 2023 de la Fédération mondiale de l'obésité, 51% de la population mondiale, au-delà de 4 milliards d'individus, seront obèses ou en surpoids d'ici 2035. Ce changement de direction de la faim vers l'obésité indique que le monde ne manque pas nécessairement de nourriture, mais fait plutôt face à une situation complexe de distribution et de consommation de nourriture. La faim a toujours existé en raison d'une distribution inégale, tandis que les risques croissants d'obésité mondiale suggèrent un problème plus complexe. Cette tendance n'épargne pas le Canada. Le taux d'obésité dans notre pays varie entre 30 % et 33 % selon la source, avec un taux de surpoids dépassant également 30 % dans de nombreux rapports. Certaines études suggèrent même que notre taux d'obésité surpasse maintenant celui des États-Unis. L'appel à l'action lancé par The Lancet est sérieux. Les experts soutiennent que le problème découle essentiellement de l'accessibilité aux aliments ultra-transformés. En réponse, le gouvernement Trudeau a mis en œuvre plusieurs mesures depuis 2015, y compris de nouvelles réglementations sur l'emballage frontispice des aliments qui entreront en vigueur en 2026 dans le but d'aider les consommateurs à identifier les produits riches en gras, en sucre ou en sodium. De plus, le projet de loi C-252, actuellement déposé au Sénat canadien, vise à restreindre la publicité alimentaire et les boissons destinées aux enfants. Même s'il est trop tôt pour évaluer les répercussions de ces mesures sur l'épidémie d'obésité, elles représentent un pas dans la bonne direction. De nombreux experts fondaient de grands espoirs sur un changement important avec la publication du nouveau guide alimentaire. 5 ans plus tard, le guide n'a pas pu inverser la tendance à la hausse des taux d'obésité, tandis que l'espérance de vie au Canada a diminué pendant 3 années consécutives, passant de 82,3 ans en 2019 à 81,3 ans en 2022. Bien que la COVID-19 et d'autres facteurs aient contribué à cette baisse, l'obésité reste un facteur de risque connu pour la mortalité prématurée et l'augmentation des besoins médicaux tout au long de la vie. La complexité de l'obésité en tant que problème demeure évidente. Des facteurs comme la pauvreté, l'éducation, l'accès aux soins de santé et le mode de vie jouent tous un rôle dans la détermination du risque d'un individu. Une tendance émergente se remarque avec l'utilisation croissante de médicaments GLP-1 comme Ozempic, initialement conçu pour la gestion du diabète, mais aussi utilisé pour la perte de poids non médical dans le monde occidental. L'effet de l'obésité sur les taux de mortalité liés à la COVID-19 a également attiré l'attention sur ces médicaments comme solution potentielle pour la perte de poids. Le récent départ d'Oprah Winfrey du conseil d'administration de Weight Watchers, couplé à son aveu d'utilisation d'un médicament GLP-1, a entraîné une chute de 20% des actions de l'entreprise Weight Watchers. Cette nouvelle, ainsi que la baisse des actions des entreprises de collation comme Mondelez, PepsiCo et Nestlé, indique une préoccupation croissante dans l'industrie quant à l'effet de ces médicaments sur le comportement des consommateurs. Avec des projections suggérant que près de 25 millions d'Américains utiliseront ces médicaments d'ici 2032, l'industrie surveille attentivement la situation. Au Canada, bien que les données officielles ne soient pas disponibles, il y a eu une pénurie d'Ozempic pendant un certain temps, soulignant la demande croissante pour ce produit. Les décisions politiques influeront sans aucun doute sur la demande pour ces nouveaux médicaments. Le nouveau projet de loi sur l'assurance médicaments présenté au Parlement récemment n'incluait pas ces produits. Il faudra suivre avec curiosité si les gouvernements en arrivent à les considérer comme une éventuelle solution au problème de l'obésité. Notre approche actuelle pour lutter contre l'obésité ne donne pas les résultats escomptés. Cependant, comme pour de nombreux autres défis de santé, la solution pourrait une fois de plus émerger de Big Pharma. C'était « Le monde est trop gros, le Canada aussi », un texte de Sylvain Charlebois paru le 11 avril 2024 dans La Presse.
Que gagnerait-on à retirer de l'espace à la voiture dans nos villes? Un texte d'Alexandre Shields, paru le 22 avril 2024 dans Le Devoir. Le recul de la place accordée depuis des décennies à l'auto solo dans le paysage urbain nous permettrait de bonifier substantiellement le verdissement de nos villes, de mieux nous adapter aux répercussions du réchauffement climatique et d'améliorer notre santé collective. Qu'attend-on pour agir? Moins de voitures pour plus de verdure. Quoi qu'en disent ceux qui estiment que la réduction de la place de la voiture dans nos villes constitue une guerre contre ce mode de transport essentiellement individuel. Le recul de l'espace grandissant accordé à l'auto-solo est primordial pour qu'on puisse augmenter considérablement le verdissement des milieux urbains. C'est l'auto qui a fait la guerre à la ville, avec les autoroutes, les grands boulevards et les rues élargies, laisse d'ailleurs tomber le directeur général de l'organisme Vivre en ville, Christian Savard. On a tenu pour acquis qu'il est normal d'avoir une place de stationnement dans la rue. Pourtant, c'est un espace qui a une valeur et qui n'est pas infini. Mais malheureusement, toutes nos bordures de rue sont consacrées à du stationnement, donc au stockage de voitures, alors que nos besoins sont grands, notamment en verdissement. Ça nous coûte cher en termes de qualité de vie globale, explique celui qui estime essentiel de verdir nos milieux urbains, notamment à Montréal. Selon M. Savard, il ne fait aucun doute qu'il faut revoir les choix d'aménagement des dernières décennies et donc retirer de l'espace réservé au seul bénéfice des automobilistes. Si on veut plus de verre, il ne faut pas seulement préserver des milieux naturels et faire plus de parcs. Il faut reconquérir des endroits minéralisés et redistribuer l'espace urbain. Professeur au département des sciences biologiques de l'UQAM, Christian Messier abonde dans son sens. On pourrait commencer par les stationnements, mais il y a aussi, souvent, des rues trop larges en ville, dit-il, estimant qu'il serait ainsi possible de bonifier les objectifs de plantation d'arbres déjà mis en avant par la ville de Montréal. On a tenu pour acquis qu'il est normal d'avoir une place de stationnement dans la rue. Pourtant, c'est un espace qui a une valeur et qui n'est pas infini, nous dit Christian Savard. Nous avons un grand potentiel, ajoute Christian Savard, en invitant les décideurs à faire les choses autrement. On ne peut pas tout faire d'un coup. Il faut donc profiter de chaque occasion pour bien faire les choses, dont réduire la place que prend la voiture. On va y gagner beaucoup. Il en appelle, du même coup, à la créativité, mais tout en expliquant bien les bénéfices de tels projets. Les rues peuvent devenir des parcs linéaires qui deviennent utiles pour se déplacer dans la ville en transport actif et qui ont des fonctions récréatives. La pandémie nous a d'ailleurs démontré l'importance de ce type d'infrastructure verte, ne serait-ce que pour faire une marche de santé, souligne-t-il. La Ville de Montréal assure pour sa part prendre au sérieux la question de la bonification de la trame verte de la ville, mais sans s'avancer sur une volonté de réduire concrètement la place accordée à la voiture. D'ici 2030, on souhaite notamment planter, entretenir et protéger 500 000 arbres, mais aussi augmenter la superficie d'espaces verts protégés. Divers projets de réaménagement de rues ont aussi permis, au cours des dernières années, de faire davantage de place au développement de la canopée. Selon l'objectif fixé par la ville, l'indice de canopée, mesure de la couverture végétale haute de 3 mètres ou plus, pour son territoire, doit atteindre 26 % d'ici 2025. Heureusement, il y a des changements, comme on le voit avec les saillies de trottoirs, reconnaît d'ailleurs Christian Savard. Mais on voit aussi des levées de boucliers lorsqu'on propose des projets de verdissement ou d'apaisement de rue. La remise en question de la place de l'auto n'est pas encore tout à fait là, même si on se dit que le verdissement est important. Vous écoutez « Que gagnerait-on à retirer de l'espace à la voiture dans nos villes ?» un texte d'Alexandre Shields, paru le 22 avril 2024 dans Le Devoir. Réduire l'asphalte pour s'adapter au réchauffement climatique. Le réchauffement climatique s'amplifie d'année en année et tout indique que les répercussions de cette crise vont s'aggraver sérieusement au cours des prochaines décennies. C'est d'ailleurs le cas des problèmes majeurs liés à la chaleur en milieu urbain. Or, dans ce domaine, la place prépondérante accordée à l'automobile ne fait que nourrir le phénomène. Les îlots de chaleur sont provoqués par la très grande présence de l'asphalte qui est mise en place essentiellement pour les voitures, résume Andréane Brazeau, analyste des politiques climatiques chez Équiterre. À Montréal uniquement, selon les données fournies par la ville en 2023, la superficie des îlots de chaleur et des zones à risque, température plus élevée que la moyenne, avoisinait les 176 km², 37 % du territoire. Et les conséquences de ce problème, de plus en plus récurrent dans nos villes, n'ont rien de banal, souligne Mme Brazeau. Dans une ville comme Montréal, il y a déjà des dizaines de décès qui sont liés aux vagues de chaleur. À titre d'exemple, en 2020, 149 personnes sont mortes des suites des vagues de chaleur et les chercheurs de l'Institut national de santé publique du Québec ont noté des surmortalités de 16 % à 42 % pour trois de ces vagues, à Montréal et à Laval. Puisque l'aggravation de la crise climatique provoquée par notre dépendance aux énergies fossiles, dont le pétrole qui alimente nos voitures, fera bondir le nombre de vagues de chaleur, leur durée et leur intensité, il est urgent de s'y adapter. Et pour y parvenir, il est essentiel de réduire la place de l'asphalte au profit du verdissement. Le verdissement est une solution assez simple pour lutter contre les îlots de chaleur. C'est donc une excellente mesure d'adaptation, mais également d'atténuation avec la captation de nos émissions de gaz à effet de serre, fait valoir Andréane Brazeau. Ces constats sont d'ailleurs inscrits dans les plus récents rapports du groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, référence scientifique mondiale en matière de lutte contre la crise climatique. Les bénéfices en matière d'adaptation du verdissement des milieux urbains sont nombreux, souligne également Nathalie Blau, coordonnatrice de programmation scientifique au consortium scientifique Ouranos. La canopée joue ainsi un rôle de climatiseur naturel en période estivale, en plus de réduire la demande énergétique pour la climatisation de nos immeubles. En ce sens, elle rappelle qu'il est aussi important d'étendre les projets de verdissement aux surfaces verticales et aux toits. Les végétaux doivent être considérés comme des actifs, ajoute Mme Blot, en insistant sur le besoin de ne pas se contenter de chiffrer le nombre d'arbres plantés. Il faut également tenir compte de la nécessité d'opter pour des espèces qui peuvent être aisément entretenues et qui seront bien adaptées au climat dans les années à venir. La réduction de l'espace minéralisé dans nos villes est en outre urgente, compte tenu des épisodes de précipitations extrêmes qui risquent de se multiplier dans les prochaines décennies. À la ville de Montréal, on dit miser sur l'implantation de parcs éponges et de trottoirs éponges pour augmenter la résilience à ces phénomènes. Ces infrastructures permettent de capter et de rediriger l'eau lors d'épisodes de fortes pluies. On trouve présentement 800 trottoirs éponges et 7 parcs éponges aménagés sur le territoire de la ville de Montréal. Le service de l'eau prévoit implanter 400 rues éponges et 30 parcs éponges d'ici la fin 2025. Une ville verte, saine de corps et d'esprit. Faire reculer le bitume au profit d'une expansion de la canopée et de la création d'espaces verts à même nos rues et les très nombreux espaces de stationnement serait bénéfique pour la santé physique et mentale des populations urbaines en mal de nature. Le professeur Christian Messier résume l'objectif minimal à atteindre par la règle dite des 3-30-300. Chaque citoyen devrait voir 3 arbres depuis son domicile ou son lieu de travail, son quartier devrait contenir 30% de canopées et chacun devrait résider à un maximum de 300 mètres d'un parc ou d'un espace vert. Le respect de cette formule aurait des effets très bénéfiques pour la santé, souligne-t-il. Les effets positifs liés à une présence nettement plus importante de la nature en ville se font d'ailleurs sentir tant sur le plan physique qu'en matière de santé mentale, rappelle Nathalie Blot. Selon les données qui ressortent des études scientifiques disponibles, dont une publiée par l'Institut national de santé publique du Québec, les espaces verts fournissent des occasions de faire de l'activité physique et entraînent ainsi une réduction associée de l'obésité, de l'embonpoint et de la morbidité. Pour les personnes âgées, cette verdure permet une meilleure disposition pour la marche et réduit les risques de problèmes de santé chroniques. Tandis que chez les enfants, le couvert végétal agit positivement en réduisant l'indice de masse corporelle et en augmentant la pratique d'activité physique à l'extérieur, souligne également l'étude de l'Institut national de santé publique. Les chercheurs ajoutent que les espaces verts ont des bienfaits sur la santé mentale, comme la réduction des symptômes de dépression et la réduction du stress. Ils affecteraient positivement le bien-être mental, le sentiment de rétablissement, la bonne humeur et la vitalité. C'était « Que gagnerait-on à retirer de l'espace à la voiture dans nos villes ?» un texte d'Alexandre Shields, paru le 22 avril 2024 dans « Le Devoir ».
Jeu d'équilibriste entre la richesse et le bonheur, un texte de Jacques Forêt, paru le 25 avril 2024 dans la presse. Jacques Forêt est professeur titulaire au département d'organisation et ressources humaines, psychologue et CRHA ESG UQAM. Les plus rusés d'entre vous diront sûrement « Et pourquoi pas les deux ?» Et c'est exactement là que réside une grande partie du problème. Sur une planète limitée quant à ses ressources, il est impératif de se questionner sur son rapport à la richesse, la vraie, pas celle monétaire, même si elle peut avoir une certaine utilité. À écouter certains économistes et politiciennes, il semble que le critère ultime de l'évolution d'une société soit l'augmentation du produit intérieur brut, PIB, ou de notre richesse financière, que ce soit par rapport à nous-mêmes ou par rapport à un autre groupe, comme une province ou un pays. Mais que disent certaines recherches scientifiques à ce sujet? Un paradoxe bien connu en sciences sociales et en économie, soit celui d'Easterlin, du nom de l'économiste, nous rapporte qu'une augmentation des richesses, au-delà d'un certain point, n'apporte presque rien du point de vue du bonheur. En d'autres mots, un certain seuil dépassé, l'argent et ses dérivés n'ont presque aucun effet notable et perceptible sur l'amélioration des conditions de vie. Cela est facilement explicable par ce qu'il est convenu d'appeler l'adaptation hédonique. Une fois extrait de la pauvreté et lorsqu'un certain seuil de satiété est atteint, il apparaît que l'argent n'a qu'un effet négligeable sur l'augmentation du bonheur ou du bien-être subjectif, car on s'habitue à ce niveau de confort. Le problème est que le niveau de confort est toujours relatif à un comparatif qui, lui, augmente. Mais pourquoi donc continuer à accumuler de l'argent et des richesses une fois ce seuil dépassé? Pourquoi tout le temps vouloir plus d'argent? Et où, au juste, se situe ce niveau de confort ou de satiété? Satiété financière, une notion importante à faire connaître. Personne ne remettrait en doute les propos d'une nutritionniste qui dirait qu'un être humain se maintiendra en santé en ingérant un nombre de calories approprié pour sa constitution physique et son niveau d'exercice. En étant insuffisant ou excessif, l'apport en calories peut être problématique. Il en est de même avec l'argent, et ce, même si on ne veut pas voir cette réalité. Une étude solide, auprès de 1,7 million de répondants dans 164 pays, nous apprend qu'il y a bel et bien un effet de satiété de l'argent sur le bonheur. Celui-ci étant généralement mesuré par la présence d'émotions positives et de satisfaction de vie, combinées à une relative absence d'émotions négatives. Pour l'Amérique du Nord, cet effet de satiété apparaît au seuil qui se situe à 65 000 $ US pour les émotions positives, 95 000 $ US pour les émotions négatives et 105 000 $ US pour la satisfaction de vie. Ce seuil variera quelque peu selon l'endroit géographique où nous sommes, le genre, de même que le niveau d'éducation, mais l'idée générale tient la route. Lorsqu'un certain seuil est atteint, l'effet optimal semble lui aussi être atteint. Il faut donc simultanément remonter le plancher en augmentant le financement des services sociaux et descendre le plafond avec les impôts sur le revenu et la fortune. Boni et transparence financière. Une croyance particulièrement tenace est, par exemple, celle voulant que certains secteurs soient plus performants que d'autres, entre autres par l'utilisation des bonis financiers pour motiver les gens. D'un point de vue scientifique, il est généralement admis que les bonis augmentent la consommation d'anxiolytiques et d'antidépresseurs, et que ceux-ci augmentent la quantité de performance au détriment de la qualité du rendement et du bien-être des personnes. Pour nuancer ces propos, mentionnons que ces effets négatifs peuvent être diminués lorsque les bonis sont informatifs plutôt que contrôlants, entièrement transparents et justes plutôt que cachés ou ambigus et injustes, collectifs plus qu'individuels, que les critères sont démocratiquement déterminés plutôt qu'arbitraires et que les récompenses ne créent pas trop de différenciation entre ceux qui les obtiennent et ceux qui ne les obtiennent pas. De récentes législations, exemple État de New York, Californie, Colombie-Britannique, ont d'ailleurs adopté des règles qui cheminent vers de plus en plus de transparence, surtout procédurale, ce qui est un vecteur de justice sociale puissant qui devrait être mis de l'avant et encouragé chez nous. Le bonheur comme but légitime en soi. Une étude auprès de 57 932 personnes nous apprend qu'une réduction de 10 % des iniquités augmente la satisfaction de vie aussi efficacement que le ferait une augmentation de 37 % du revenu annuel. Et dans un échantillon de 33 pays, sur une période de 24 ans, une réduction des iniquités de 5 % augmente la satisfaction de vie autant que le ferait une augmentation de 11 % du PIB. Il est donc possible d'avoir de la prospérité sans croissance, et ce, simplement en diminuant les iniquités. Voilà une politique à coût presque nul qui bénéficie à tous et toutes. Aussi, une enquête auprès de plus de 220 000 personnes couvrant la période de 1989 à 2016, nous montre que de donner la priorité au travail plutôt qu'au temps de qualité vient avec un coût quant au bien-être de la nation. La vraie richesse d'un peuple devrait ainsi inclure l'affluence temporelle au quotidien et la qualité des expériences quotidiennes. Le rapport mondial sur le bonheur est disponible gratuitement chaque année, depuis au moins 10 ans, pour faire le point sur les pays les plus heureux et les raisons de ces constatations. En isolant les données québécoises des Canadiennes, nous apprenons que le Québec est au 6e rang des entités administratives les plus heureuses au monde, devant nos comparses des autres provinces. Voilà un accomplissement que nous devrions célébrer et améliorer tous et toutes ensemble. Le grand économiste Adam Smith a d'ailleurs mentionné, aussitôt qu'en 1759, que les gouvernements n'ont de valeur que dans la mesure où ils tendent à promouvoir le bonheur de ceux qui vivent sous leur responsabilité. C'est là leur seule utilité et leur seule fin. En conclusion, il semble que d'autres critères que l'argent, dont le bonheur et la richesse en temps, pour n'en nommer que deux, puissent être des indicateurs plus probants et puissants de progrès sociétal que ne l'est l'argent ou le PIB. Qui plus est, ces indicateurs peuvent être des objectifs sociétaux importants qui méritent d'être poursuivis comme valables en soi. C'était Le jeu d'équilibriste entre la richesse et le bonheur, un texte de Jacques Forêt, paru le 25 avril 2024 dans la presse.